C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi 24 février, bienvenue au 98.5, bonne journée. On a encore un peu de neige pour commencer cette journée. Neige intermittente qui va cesser bientôt, dégagement par la suite, avec un maximum autour de moins 8, on a moins 11 degrés ce matin. Et le ciel va rester pas mal dégagé, même en soirée. La nuit sera froide, on parle de moins 20 degrés. Et pour la fin de semaine, ben disons quelques journées avec des flocons de neige. Peut-être 1, 2, 3 centimètres, tant samedi que dimanche. Température autour de moins 13 samedi. Et dimanche, on prévoit moins 6 degrés. Donc, il y a un an, la Russie envahissait l'Ukraine. Depuis les dernières heures, je dirais même les derniers jours, on souligne bien sûr cet événement. Ce matin, le président ukrainien Zelensky a fait un discours pour rappeler la force de son peuple, la capacité de résilience, les douleurs qui ont été marquantes durant toute l'année. Et il rappelle qu'il va se battre avec le peuple ukrainien jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la victoire qu'il prévoit cette année. Évidemment, c'est un discours politique. Peu d'observateurs pensent que c'est une guerre qui pourrait prendre fin rapidement. Ajoutons ce matin que la Chine a émis un plan en 12 points. La Chine qui, vous le savez, joue pas mal sur les deux tableaux, qui d'un côté n'a pas formellement condamné l'invasion russe, et de l'autre qui invite maintenant les parties à un dialogue, à une discussion, afin de trouver une solution. Et un des points sur lesquels la Chine insiste beaucoup, c'est tout le dossier de l'arme nucléaire. La Chine dit il ne faut pas penser à utiliser l'arme nucléaire, il ne faut pas utiliser tout court l'arme nucléaire. Et puis entre-temps, le président Poutine, qui demeure, somme toute, assez isolé sur la scène internationale, continue de marteler le même discours. Et plusieurs anticipent des attaques peut-être plus musclées des Russes. C'est pas aujourd'hui, mais ce serait peut-être au cours de la fin de semaine. Donc le discours qui est de dire nous sommes victimes, nous, les Russes, d'une agression de l'Ouest, de ce régime composé de néo-nazis. Jean-François Lépine sera avec nous un peu plus tard ce matin, puis on va faire le tour de la situation en Ukraine un an après le début de cette guerre. Deuxième dossier ce matin, celui de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Il y a différentes façons de voir ça. Sur papier, la Caisse a perdu beaucoup d'argent. Je dis bien sur papier parce que ce sont des fluctuations de valeur de portefeuille. En un mot, nous avons tous perdu. Et comme me disait un ami l'autre jour, si quelqu'un prétend faire des profits cette année, c'est un Bernard Madoff potentiel qui sommeille parce que c'est à peu près impossible. Donc, la Caisse a perdu. C'est un rendement négatif. Par contre, il y a quelques éléments extrêmement positifs. D'abord, la Caisse se compare avec d'autres gestionnaires de portefeuille. Et puis, on se rend compte que le rendement est, disons, quand même pas si mal dans le contexte. Tout ça pour dire qu'on se rend compte que la Caisse a obtenu, par exemple, si je prends le cas du portefeuille des actions, un rendement négatif de 5,7%, moins 5,7%. Et l'indice avec lequel on se compare, c'est autour de 7%. Également, on a des performances intéressantes dans tout ce qui est le secteur des immeubles, des infrastructures. Alors, oui, mauvaise année pour la Caisse, mais quand même, disons que le choc a été moins brutal que pour d'autres gestionnaires de portefeuille. Tout indique, parce qu'il y a des dossiers en périphérie, que le REM, la mise en service, va se faire comme prévu au printemps. Mais là, le printemps, ça s'en vient quand même assez vite. Alors, pour ce qui est de la rive sud de Montréal, et il n'y a pas, semble-t-il, d'autres projets d'infrastructure majeurs. Il y a évidemment l'implantation là, de l'ensemble du réseau du REM ici sur le territoire au Québec. La grande question que tout le monde se pose, voilà le portrait pour 2022 que nous réserve l'année en cours. Et vous l'avez vu encore hier, c'est très, très volatile. Il y a des journées assez positives, d'autres journées où le portefeuille dégringole. Et j'écoutais l'autre jour à Radio-Canada, François Tran, dans le cadre de l'émission de Gérald Filion, qui est un gars qui œuvre dans le domaine financier sur Wall Street, et qui, lui, je vous le dis tout de suite, là, est pas très, très optimiste sur ce que nous réserve l'avenir. J'écoutais ses propos et il a dit, il faut que les gens se mettent dans la tête que la récession s'en vient, qu'il va y avoir des pertes d'emplois, qu'il va y avoir un ralentissement économique important, que l'économie va avoir un choc. T'écoutes ça, là, puis tu te dis, on croyait que le pire était peut-être derrière nous, mais lui prétend le contraire, que 2023 sera une année extrêmement difficile parce que, entre le moment où, entre autres, les banques centrales, comme la Banque du Canada, modifient les taux d'intérêt, le taux directeur, ben ça prend du temps avant de ressentir les effets. Alors, personne n'a de boule de cristal, mais c'est sûr que 2022 a pas été une année très, très festive, disons, et que 2022 s'est terminé pas mal. 2023, c'est coup-ci, coup-ça. Alors, le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement sera avec nous un peu plus tard ce matin. Parlons du système de santé. Je vais vous dire une chose. Je sais que Québec, et pas juste en santé, souhaite prendre un virage numérique. Parce que nous sommes à l'époque du Néandertal, époque préhistorique. La Société d'assurance automobile du Québec a implanté son nouveau système dans les dernières semaines et la mise à jour a été complétée pour lundi matin. Or, vous le savez, là, il y a eu des ratés. Je ne sais pas combien de courriels j'ai reçus de gens qui se sont heurtés à des pannes de système, des gens qui se sont pointés dans des bureaux, dans des succursales de la Société d'assurance auto, qui ont attendu en vain qu'on leur virait de bord, des employés qui sont un peu confus. Le système répond pas. Je le répète, ça va finir par s'ajuster. Mais quand même, là, faudrait pas nous remplir puis nous faire croire que tout se passe pratiquement normalement. Ce matin, dans Le Devoir, on a la confirmation que plusieurs médecins spécialistes du Québec trouvent que le système de réservation par centrale téléphonique est absolument déjoué. Donc, de vouloir prendre un rendez-vous au téléphone avec un médecin spécialiste, oubliez ça. Vous pouvez attendre. On finit par vous raccrocher. D'ailleurs, à la Société d'assurance automobile, quand t'appelles, après un certain temps, ça raccroche. T'as des gens qui laissent sonner, puis à un moment donné, paf, ça raccroche. Et Marie-Ève Cousineau, dans Le Devoir, rapporte les résultats d'une étude qui a été faite pour le compte de l'Association des spécialistes en médecine interne du Québec. Ils ont interrogé 350 spécialistes. Et pour eux, là, le système défaillant de téléphone, de prise de rendez-vous, c'est quasiment aussi important que le banque d'infirmières. Pourquoi? Parce que, contrairement à une entreprise, disons, efficace, ils sont difficiles à rejoindre. Deuxièmement, quand tu veux rappeler à un patient que dans 2 jours, il a son rendez-vous, il n'y a personne qui fait ça. Ou en tout cas, très rarement. C'est comme, tu as pris ton rendez-vous il y a 3 mois, ben tu devrais t'en souvenir. Donc, il y a des ce qu'on appelle les no-shows, là, les patients qui se présentent pas. Est-ce qu'on est surpris de ça? Non. Puis l'inverse est aussi vrai. Mettons que tu vas appeler parce que tu dois annuler. Puis là, je parle des spécialistes, mais je pourrais parler des omnipraticiens. C'est assez compliqué. Il y a un médecin, le docteur McCabe, qui est à Châteauguay, qui qualifie d'archaïque le système de prise de rendez-vous dans les centres hospitaliers. Puis quelle est la réponse de la machine? Toujours la même chose. Nous avons des défis. Ils ont la liste des termes, tu comprends, pour pas trop perdre la face. Au lieu de dire, ça n'a pas de bon sens, non, nous avons des défis, nous le reconnaissons, là. Nous avons beaucoup de terrain à parcourir avant d'être efficaces. Alors, ça, c'est pour ce qui est de la prise de rendez-vous téléphonique. Je vous ai parlé l'autre jour de cette clinique, ce centre qui regroupe des chirurgiens orthopédiques dans les Laurentides, qui attendait un permis pour pouvoir exploiter leur centre médical, faire des opérations en orthopédie. Et on sait que ça déborde sur les listes d'attente. Donc, ils se sont dit, là, puis ce sont des médecins, je le rappelle, qui œuvrent dans le public, qui vont opérer des patients. La facture sera payée par le réseau public. Et leur objectif, c'est d'opérer 4000 patients par année. Puis on le sait que dans les Laurentides, c'est encore peut-être un des endroits, là, où la pression est la plus forte. On avait parlé avec un des médecins, le docteur Patrice McKinnon, qui avait dit, nous autres, on est prêts, mais ça nous prend un permis. Puis j'avais challengé le ministre Christian Dubé qui m'avait dit, puis il est pas fou, là. Il sait que des fois le mammouth avance lentement. Hier, on apprenait que ce permis serait enfin octroyé à la clinique de Saint-Jérôme. Donc, on a fait avancer les choses. Vous vous dites, c'est réglé. C'est pas si simple que ça. Il y a encore d'autres étapes administratives avec le CIUSSS du coin à régler avant de pouvoir amorcer les travaux et espérer être capable de traiter les premiers patients d'ici la fin de l'année. Bonne nouvelle, mais disons que c'est pas tout à fait encore réglé. Très bien. Regardons les autres nouvelles. Radio-Canada qui nous dit que les étudiants admissibles aux bourses Perspective Québec ont encore quelques jours pour réclamer leur premier versement. Et vous le savez, là, c'est un programme pour stimuler la formation de la main-d'œuvre, amener des jeunes donc à étudier et aller vers des programmes où on cherche des employés. Et ça permet donc d'avoir de l'argent. Il y a des montants qui sont versés à chaque session. À l'Université de Montréal, par exemple, on nous dit que 74% des étudiants admissibles et qui ont le résident, là, qui donc conforme, ont déposé leur demande à ce jour. Et ce sont des sommes qui représentent là 1 500 $ au cégep et 2 500 $ à l'université qui est accordée après chaque session. Puis dans certains cas, je dis pas que c'est indécent, là, mais disons qu'il y a des montants qui sont alloués à des étudiants qui, de toute façon, seraient allés étudier dans ça, puis des programmes où déjà, il y a quand même un bon nombre d'étudiants. Alors, je comprends l'objectif, là, c'est de dire on cherche des ingénieurs, on cherche de la main-d'œuvre spécialisée. S'il y en a qui peuvent devenir des intervenantes à la DPJ, tant mieux. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont assez morts de rire. Entre vous et moi, là, qui n'ont pas à se battre l'été pour se trouver une job, on leur donne 2 500 $ par session, ou 1 500 $ si vous êtes au cégep. Alors, je comprends que il y a des coûts de rattache aux études, logement, puis que ça coûte cher, puis on parle souvent du panier d'épicerie. Mais quand même, disons que ça fonctionne assez bien. Et en parlant d'argent, j'attire votre attention sur le rapport du responsable du budget du Parlement fédéral. Ce qu'on remarque, c'est que le gouvernement Trudeau, on le savait déjà, est très, très porté sur les dépenses. Puis je parle pas juste de la pandémie comme telle, mais tous les contrats, et pas juste à McKinsey, là, tous les contrats qui sont octroyés à des firmes de consultants, de la sous-traitance, c'est en explosion. Par exemple, on dit que lors de la dernière année fiscale, c'est pas loin de 22 milliards de contrats qui ont été accordés. Et malgré ça, le nombre d'employés dans le secteur public ne cesse d'augmenter. En résumé, puis là, ça va être plate comme résumé, beaucoup de contrats donnés en sous-traitance, beaucoup de nouveaux employés, mais des retards en immigration, des retards dans la caisse d'assurance emploi, des gens qui attendent et qui attendent et qui attendent pour un chèque ou pour un statut, malgré les milliards qu'on dépense. L'inefficacité de la machine fédérale, disons, qui est soulignée. Et puis, je termine en disant que Robert Miller, le milliardaire montréalais qui aimait les petites filles, on a vu le reportage de Enquête Fifth Estate, il y a donc une demande de recours collectif qui a été déposée contre lui. Et il y a déjà un certain nombre de femmes qui ont adhéré à ce recours. D'autres vont se joindre à ce mouvement. Et on connaît tous l'histoire en résumé. Ce sont des femmes qui ont témoigné à quel point Miller avait organisé un système, disons, pour exploiter sexuellement des jeunes filles en échange de cadeaux d'argent, de sacs de hockey remplis de cadeaux, justement, et que ça a duré pendant des années. Ça se passait dans des hôtels luxueux de Montréal, Reine-Élisabeth, entre autres, ou encore dans une maison à Westmount, pas la sienne. Des enquêteurs privés se sont mêlés de ça. Et Miller, qui serait aujourd'hui malade, a quitté ses fonctions au sein de l'entreprise. Et tous les gens qui ont fait partie de son équipe sont également mis de côté. Est-ce que ça va amener les enquêteurs puis les procureurs à reconsidérer le dossier? Est-ce qu'il y a d'autres preuves? Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Parce que ça n'a pas de bon sens ce qui s'est passé. À l'époque, M. Miller a nié tout ça, puis il répète que c'est un coup d'argent fumant qui se prépare. Mais quand même, c'est dur à croire que le dossier est comme mort au feuilleton à l'époque. Et ça arrive où Harvey Weinstein écope, encore une fois, de peine de prison additionnelle pour avoir violé des jeunes actrices alors qu'il était au sommet de son pouvoir, et R. Kelly, qui a exploité des jeunes femmes à répétition. C'est un chanteur, c'est un musicien. Il est déjà en prison pour des dizaines d'années. Ben, on rajoute des dizaines d'années de détention.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Alors, présentation hier de ce rapport annuel de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, rendement négatif, évidemment, je vous dirais comme tout le monde, sauf que quand il y a des points de comparaison qui sont faits avec les indices de référence, et aussi plus précisément dans un certain nombre de secteurs, la performance de la Caisse est supérieure. Son président-chef de la direction est avec nous, Charles Aymon. Monsieur Aymon, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Vous aviez anticipé une année difficile. La dernière fois qu'on s'est vu, là, donc les signaux étaient assez négatifs. Quand vous regardez la situation pour 2022 et le début de 2023, avez-vous l'impression que après cette période négative, ça se corrige ou que 2023 sera encore une année malheureusement difficile?
Malheureusement difficile. Si on se rappelle, il y a un an, c'était le matin de l'invasion de l'Ukraine, je m'en rappelle, quand on a sorti nos résultats, je suis venu vous voir, j'ai regardé mes propres mots, j'avais dit que 2022 serait historiquement exigeante. 2023 va peut-être être un peu différente dans le sentiment qu'on va avoir par rapport à cette année-là, mais elle va être tout aussi difficile. Parce qu'en fait, on fait face à deux choses. Il y a une ou deux choses qui vont arriver. Soit les taux vont continuer d'augmenter, parce que la Banque du Canada, la Réserve fédérale, va dire qu'il faut continuer à tempérer l'inflation qui est têtue. Ou le remède qu'on nous sert va marcher, puis ça va avoir un ralentissement économique, une récession, donc une baisse des profits des entreprises. Dans les deux cas, nous, comme gestionnaires de portefeuille, c'est des vents de face. Donc, ça va être difficile en 2023. Il faut le voir comme une année de transition pour que le marché trouve une espèce d'équilibre plus tard en 2024.
J'écoutais cette semaine M. Tran, François Tran, qui est sur Wall Street depuis 25 ans. Il était à l'émission de Gérald Filion à Radio-Canada. Et lui, là, nous parle d'une récession majeure, que appelons ça les soubresauts positifs du début de l'année, c'est justement une espèce de signe avant-coureur qui confirme que ça va être dur, que le pire est devant nous. Êtes-vous d'accord avec ça, vous aussi, que le pire est devant nous?
En tout cas, c'est certainement pas entièrement derrière nous. Si on regarde, la première hausse de taux était en mars dernier. On en a eu 7-8 par la suite. Il n'y a jamais eu un resserrement de cette ampleur-là en si peu de temps. Donc, première chose, il n'y a jamais eu de hausse de taux comme ça sans avoir une récession. Ça, c'est un premier fait. Puis la deuxième chose, c'est quand on regarde tout ça, ça prend 12 à 18 mois minimum pour qu'une hausse de taux ait son impact dans le système. Donc, on commence à peine à sentir les effets annualisés de la première hausse de taux en mars dernier. Il y en a eu 7-8 autres. Donc, on est comme du monde qui a pris 2-3 gorgées de sirop. Là, faut voir, attendre un peu si le remède fait son effet. Mais c'est clair que 2023, il va avoir un ralentissement important. Puis là, il va falloir voir à quel niveau ça nous impacte. Mais il reste un passage avec de la turbulence en avant de nous.
Ce qui se traduit comme quel type de stratégie pour la Caisse?
Bien, dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir des classes d'actifs qui performent bien, premièrement, disons, dans un contexte d'inflation. Si on regarde l'infrastructure, l'immobilier, tout ça, c'est des classes d'actifs. Pourquoi ils ont bien performé? C'est des classes d'actifs comme l'infrastructure. 80% de l'inflation, on peut la passer dans nos revenus. Donc, même si c'est de l'inflation, on fait plus d'argent. Si je prends les titres à revenus fixes, où est-ce qu'il y a la majorité des pertes, pourquoi qu'on n'est pas si inquiet? C'est parce que sur 3-4 ans, c'est des obligations du Québec, du Canada, des prêts qu'on a fait à des entreprises profitables. Juste s'asseoir là-dessus pendant les 3-4 prochaines années, c'est sûr qu'on récupère notre capital. Et je sais que la hausse des taux fait mal aux gens au quotidien, moi également, mais je peux leur dire qu'à travers nous, comme prêteurs, maintenant, j'ai un portefeuille de revenus fixes de 130 milliards. Ça fait plus 0,1, 2 %, ça fait 6, 7, 8 %. Alors, c'est rentable. De ce côté-là, c'est comme ça qu'on se positionne.
OK. Parlons des secteurs, vous l'avez dit, là où les performances ont été meilleures. Parliez des infrastructures. On peut penser, par exemple, aux centres commerciaux. Là, toute cette division-là qui est en mutation de grands espaces puis des centres moins. Vous en allez où? Vers une liquidation, une transformation des centres commerciaux?
Si on les situe, les centres commerciaux, dans le portefeuille immobilier, vraiment, on en avait beaucoup trop quand la pandémie a frappé. On avait le portefeuille immobilier, avait centres commerciaux, c'était les plus importants, des bureaux, du résidentiel, puis de la logistique et les entrepôts. En 3 ans, on a inversé complètement cet ordre-là. Donc, il nous en reste des centres commerciaux. On a gardé les meilleurs. On a réussi à vendre les autres. On veut revitaliser ceux qu'on a. Les mettre dans un complexe, je dirais, avec du résidentiel, avec du commercial, c'est l'avenir. Un centre commercial tout seul d'un stationnement, d'une place isolée, là, ça n'a pas vraiment d'avenir. Surprenamment, en 3 ans, c'est plus les centres commerciaux qui est ma première préoccupation en immobilier. Parce qu'on est revenu au niveau de loyer pré-pandémie, puis le monde est revenu magasiner. Ils magasinent pas de la même façon, mais quand ils viennent, ils dépensent.
Okay.
C'est les bureaux maintenant où est-ce qu'on se regarde un peu plus une vigie parce que avec le retour au travail, le modèle de travail hybride, cette classe d'actifs-là, ils vont avoir des bons bureaux, ils vont bien, mais les mauvais bureaux, ça va être exigeant.
Est-ce que, parce qu'il y a une pénurie de logements en même temps, oui, ça veut dire, puis on a vu dans d'autres villes, des transformations d'immeubles à bureaux au centre-ville, peut-être vocation double, là, mais essentiellement des conversions vers des logements?
On en voit, puis c'est pas toujours facile à convertir ces édifices-là. Ça n'a pas été fait pour du résidentiel tout le temps. Donc, il faut que tu vois quel est le montant d'investissement qu'il faut que tu fasses pour le convertir, puis l'adapter, parce qu'un environnement de bureau puis un environnement résidentiel, évidemment, c'est pas la même chose. Mais c'est du travail chirurgical. C'est bureau par bureau. Mais on n'est pas dans la même situation, nous, notre portefeuille bureau, qu'on était dans les centres commerciaux. On était plus proactifs, on était prudents, on a réussi à faire certaines conversions, on a des bons édifices, il y en a 4-5 à regarder aux États-Unis. Je suis moins préoccupé que je l'étais à l'époque pour les centres commerciaux.
Deux choses. La première, l'investissement dans Celsius, là, la crypto-monnaie. Je comprends que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais là, je me dis en même temps, normalement, la caisse, avant d'investir, va aller vérifier, va mettre son nez dans les livres, etc. Est-ce que la caisse l'a échappé? La vérification a été moins efficace que normalement?
La vérification n'a pas été moindre. On l'a échappé pareil. Parce que vous savez, moi, quand on réduit un investissement après un an, c'est pas un bon investissement. Personne n'est content de ça à la caisse. Mais non, je voudrais que les gens soient rassurés. Jamais la caisse roule les dés, les yeux fermés, pour on investit dans quelque chose. Premièrement, il y avait un partenaire qui avait plus que nous, Westcap. Ça faisait 7 mois quand on est arrivé qu'il faisait une revue diligente ultra détaillée. Nous, on est embarqués, puis on a fait notre travail aussi. Puis écoutez, j'avais des experts, une quinzaine d'experts de la crypto des États-Unis, puis tout, puis on a regardé ça. C'est sûr, du capital de risque, la thèse me sert quand toujours une transformation profonde d'une entreprise qui est moins mature pour faire des rendements. Ils sont rentrés dans une entreprise qui était trop immature, d'un secteur en émergence, pas encore réglementé. Puis en plus de ça, on est rentré probablement dans une entreprise où est-ce que on s'est pas tout fait dire, pour être bien franchement. C'est pour ça qu'on a déposé un recours il y a 2 semaines. C'est comme une maison. Tu peux faire l'inspection. Après ça, tu as des représentations et garanties du vendeur.
Avez-vous mal évalué les dirigeants de l'entreprise?
Oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'il y a des choses qui ne nous ont pas été mentionnées. Donc, on avait investi de façon prudente en haut dans la holding, où est-ce qu'il n'y avait pas de dette, aucun passif des clients. Il y a des actifs profitables qui nous reviennent à nous si jamais ils sont vendus. Ça, c'est remis en question. Puis, on nous a caché certaines choses sur la situation financière. Fait que j'avais dit en nous qu'on regarderait nos recours juridiques. On l'a fait.
OK. Le REM. Il y a le rapport au printemps là, de la mise en service. Oui. Est-ce que ça va se faire vraiment cette année au printemps, donc dans quelques semaines, quelques mois?
Oui.
Avez-vous une date?
On me demande beaucoup la date. Je vous dirais, on a dit au printemps, calculé dans le milieu du printemps. Vous savez, on a voulu être prudent quand on a ouvert. C'est une bonne décision, je pense, de retarder de 3-4 mois. Là. Permettre de faire des tests quand il y a du verglas, éviter tout le fiasco qu'il y a eu à Ottawa. Et puis, l'ouverture est prévue toujours pour le printemps 2023. Là.
Puis les tests ont été concluants, il n'y a pas eu de...
Jusqu'à présent, ça va bien. Vous savez, c'est un ordinateur, hein, ce train-là. Il n'y a pas de chauffeur. Alors, c'est d'arrimer tout ça. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est de s'assurer que chacun... C'est comme faire un instrument de musique là, dans un orchestre. Chaque instrument fonctionne. Là, on est rendu à s'assurer que l'orchestre, ça sonne bien tout ça. Et jusqu'à présent, tout va bien pour continuer l'ouverture.
Non, on parle évidemment du REM de la Rive-Sud.
Ouais.
C'est quoi le plan de mise en service des autres parties du REM dans l'Ouest, là, entre autres?
Sauf le tracé de l'aéroport qui est complété pour nous, mais que l'aéroport doit finir sa station. Ça va aller en 2026. Toutes les autres antennes, c'est fin 2024.
Et après ça, la boucle REM est complétée.
Oui, il va rester... Probablement que l'aéroport nous a dit qu'il y en avait jusqu'à 2026 finir leur station. C'est la seule station qui est sous la responsabilité de, qui est pas sous la responsabilité de la caisse. Eux vont finir ça en 2026. Nous, on va venir connecter ça, mais Alice qui fait le tunnelier, là, tout est terminé. On est parti. Nous, on attend juste que la station soit.
Puis le REM de l'Est, est-ce que vous regrettez? Est-ce que vous dites, on l'a échappé? On n'a pas assez, on n'a pas présenté le projet qui aurait pu se concrétiser?
Ben, de notre point de vue, on avait écouté attentivement toutes les parties prenantes qui avaient un intérêt pour le modifier. On a fait beaucoup de modifications. On croyait que de le connecter au centre-ville était très important. Ceci dit, aucune amertume. Je veux dire, nous, après ça, la ville, le gouvernement, c'est leur prérogative s'ils veulent un autre projet. On leur a remis toutes nos études, on collabore, puis on souhaite aux gens qu'il y en ait un projet là, de mobilité structurante. Alors pour nous, on n'a pas de regrets. On pense qu'on a fourni la meilleure proposition en fonction des données qu'on a, puis que ce qu'on croyait qui était acceptable et en même temps rentable pour la Caisse.
On dit souvent à la Caisse, bon, évidemment, c'est faire fructifier les épargnes des Québécois, puis c'est aussi de jouer un rôle dans l'économie du Québec.
Oui.
La Caisse a combien d'investissements au Québec?
Chiffrons, là, 1 milliard près, à peu près là, 80 milliards sur 400. Puis ça, cette proportion-là, j'aime mieux dire, nous, on a 80 milliards d'une économie dont le PIB est de 500 milliards au Québec. Ça, cette statistique-là, là, on est le fonds de pension dans le monde qui est le plus investi dans son économie locale. Point barre, dans le monde entier. Puis on veut monter à 100 milliards d'ici 4 ans.
Est-ce qu'il y a des secteurs, je vous demande pas de me dévoiler votre stratégie d'investissement, là, mais est-ce qu'il y a des secteurs au Québec où la Caisse est pas assez présente, ou encore des secteurs où vous dites ce sont les secteurs plus d'avenir en termes de développement?
J'aime bien le secteur qui touche tout à la numérisation de l'économie. C'est un peu au sens large, il y a plusieurs secteurs là-dedans, mais c'est de s'assurer qu'on est très présent là-dedans. Si je regarde le secteur des technologies de l'information, on avait fait des calculs selon là des méthodes reconnues, pas nos méthodes, là, des ministères. On a investi les dernières années dans ce secteur-là, puis ça a créé, faire une augmentation de 17% du secteur du PIB, du secteur des technologies. Pourquoi c'est important? Parce qu'une entreprise comme Lightspeed s'est investie dedans. Elle aide chacun de ses clients à se numériser puis à se moderniser dans ses systèmes. Fait qu'il y a un effet, des bénéfices collatéraux que j'appelle dans l'économie, qui parfois sont plus puissants que dans d'autres secteurs. Mais on est présent dans une gamme de secteurs. Là, il n'y en a pas vraiment de secteurs dans lesquels on n'est pas vraiment présent, je dirais, là, qui me viennent à l'esprit. On est investi dans 612 sociétés directement ou indirectement au Québec. Donc, c'est beaucoup.
Je lisais Francis Weiss cette semaine qui disait qu'il y a un certain nombre d'entreprises où vous êtes majoritaire, là, 50% mm-hmm. et plus, puis que c'est pas le mandat de la Caisse de devenir l'actionnaire de contrôle. Pourquoi vous l'êtes?
Dans ces cas-là, la loi permettait déjà de l'être. En immobilier, tu peux avoir 100%. On avait aussi dans certains secteurs ou en fonction de certaines circonstances. Par exemple, s'il y a une relève pour un fondateur, il y a un bloc de 80%, on préférait l'acheter. Mais il faut voir que quand on fait ça, on l'a demandé dans le secteur d'infrastructure, ça nous donne des avantages concurrentiels, puis ça se traduit par des rendements plus élevés pour les Québécois. Je donne des exemples. Quand tu peux acheter plus que 30% ou 50% d'une infrastructure, tu te distingues par rapport à les autres qui veulent l'acheter. Tu peux en acheter des plus grosses parce qu'il y a moins de concurrence. Donc, tu payes moins cher. On peut mettre notre stratégie de valeur ajoutée en place avec une équipe de direction. Je donne un indice. Le portefeuille infra depuis 5 ans, il a fait 9,8%. On va dire 10%. Quand on est en contrôle, co-contrôle, on fait 50% plus d'argent. 15% de rendement. Donc, pour nous, ça se traduit, on le fait. Puis, c'est en lien avec notre stratégie climatique dans l'infrastructure. Donc, on trouvait qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus aussi moderne au goût du jour, parce qu'on pouvait le faire dans une entreprise pétrolière ou gazière, mais pas dans le renouvelable. Alors, ça va être bénéfique de ce point de vue.
En résumé, une autre année difficile, M. Aymon.
Oui. Écoutez, il est même pas impossible d'imaginer une autre année, là, un rendement négatif. Puis quand je parle avec mes pairs à travers le monde, on va rester dans une période de 12-18 mois qui va être très exigeante, mais on a un portefeuille qui est prêt pour tous les contextes. On l'a vu en 2021, on a sous-performé dans le marché aussi. Puis on l'a fait aussi cette année dans un marché qui était les pires en 50 ans. Donc, on va continuer notre stratégie qui rapporte des bénéfices.
Merci d'être venu.
Merci à vous. Merci.
Charles Aymon est président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc, il y a un an, c'était le début de cette invasion russe en Ukraine. Il y a un an, Vladimir Poutine se disait menacé par l'Ouest. Il a répété le même discours et que le régime ukrainien était un régime de néo-nazis. Beaucoup de choses depuis un an. Jean-François Lépine est avec nous. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
On va commencer par la Chine ce matin. La Chine qui a émis un document en 12 points. La Chine là, qui n'a pas condamné l'invasion, mais qui dit quand même chercher une forme de dialogue, une forme de solution pacifique.
Ouais, ça s'appelle littéralement position de la Chine sur le règlement de la crise ukrainienne. Encore une fois, hein, on parle pas de guerre Ukraine-Russie. La Chine emploie jamais ce terme-là. C'est un document en 12 points, Paul. Simplement pour te donner une idée là, des points qui s'en vont à droite et à gauche. On se demande un peu où est-ce que ça s'en va tout ça. Mais d'abord, il faut respecter la souveraineté des États, renoncer à la mentalité de la guerre froide, cesser les hostilités, lancer des pourparlers de paix. Ne pas s'attaquer aux centrales nucléaires en Ukraine, ça c'est important. Et puis surtout, ne pas utiliser l'arme nucléaire. C'est des points qui... Et puis ensuite, on dit qu'il va falloir mettre fin aux sanctions, etc. Donc, c'est un espèce de document dont on se demande un peu où est-ce qu'il s'en va. Est-ce que la Chine veut vraiment jouer un rôle de médiateur? Le président Xi Jinping doit rencontrer bientôt le président russe Vladimir Poutine. La Chine, qui est déjà extrêmement critiquée pour sa position depuis le début, elle n'a jamais dénoncé l'invasion. Pourtant, elle dit aujourd'hui qu'il faut respecter la souveraineté des pays et l'intégrité territoriale des pays. Donc, il y a une contradiction. On se demande si cette offensive-là va aller quelque part, surtout que la Chine est déjà soupçonnée par beaucoup, dont les États-Unis et l'Europe, de vouloir aider même maintenant militairement la Russie. Et d'un autre côté, s'il y a un espoir de médiation, il faut que tout le monde soit d'accord avec ça. Puis pourtant, le président Zelensky continue à dire que l'Ukraine va se battre jusqu'au bout. 2023 sera l'année de notre victoire, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, ce matin, au peuple ukrainien. Puis hier, il faut le mentionner, les Nations Unies ont adopté une résolution demandant un retrait immédiat des troupes russes de l'Ukraine et une négociation d'une paix véritable. 141 pays pour la résolution sur 193, c'est exactement le même score qu'il y a un an, quelques semaines après le début de l'offensive. Donc, on en est malheureusement au même point.
Bon, un an plus tard, on peut évidemment conclure que c'est un conflit qui a été, qui demeure brutal, coûteux à tous les points de vue, en termes de vie humaine, en termes d'argent également. Peut-être faire le bilan là et des comparatifs avec d'autres conflits.
Oui, en quelques chiffres, là, je pense que ça vaut la peine de le faire, Paul. D'abord, c'est la première guerre terrestre d'envergure en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un front de guerre de 1000 kilomètres de long, du nord au sud, du côté est de l'Ukraine. Un tiers de la population ukrainienne en exil dans son pays ou à l'étranger. Un tiers de la population, Paul. 35 000 morts civils parmi la population ukrainienne. Du côté des militaires, on dit 180 000 morts ou blessés du côté russe, 100 000 du côté ukrainien. Donc 180 000, 100 000. En comparaison, Paul, en 20 ans de guerre en Afghanistan, les Américains ont perdu, blessés ou décédés, 35 000 soldats. Donc, on voit la comparaison, on voit à quel point on parle en un an d'une ampleur sans précédent. On parle de 700 milliards de dollars qui seraient nécessaires pour la reconstruction du pays. Tout le monde voit les images de dévastation, une économie ukrainienne en ruine. Il faut le dire aussi, des milliers d'enfants qui ont été enlevés d'Ukraine, des milliers d'œuvres d'art volées et évidemment des accusations de crimes de guerre. Tout ça en un an. Sur la planète, là, c'est vraiment une catastrophe.
Un autre élément, c'est qu'au point de départ, on se disait la puissance russe devrait venir à bout rapidement des Ukrainiens. On voyait déjà les Russes triompher dans la capitale. Qu'est-ce qu'on a évité jusqu'à maintenant?
Ben, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut dire le positif aussi. On a évité justement une offensive qui aurait atteint la capitale et renversé le gouvernement. C'était ça la perspective au début. Les Américains disaient à M. Zelensky de quitter le pays. On a évité aussi, beaucoup plus important, cette menace russe d'utiliser des armes nucléaires et peut-être seulement des armes nucléaires tactiques, c'est-à-dire plus circonscrites, hein, pour attaquer sur le front, par exemple, une partie importante de l'armée ukrainienne. Mais la menace est toujours là, mais on l'a évité jusqu'à maintenant. On a évité aussi, Paul, une implication plus directe de l'OTAN, hein, les bottes des soldats de l'OTAN ne sont pas sur le territoire ukrainien. C'était une crainte, c'est la menace que fait peser tout le temps Poutine devant l'OTAN. Si vous intervenez dans ce conflit-là, les choses vont s'aggraver. Ça ne s'est pas produit. Et aussi, il n'y a pas eu de débordement des conflits en dehors du territoire de l'Ukraine, même si aujourd'hui, il y a des pays autour, comme la Moldavie, qui est un pays juste à côté de l'Ukraine, où il y a une instabilité politique très importante. On parle d'une intervention russe qui pourrait être même un coup d'État dans ce pays-là. Donc, il n'y a pas pour l'instant de débordement du conflit à l'extérieur de l'Ukraine. Donc, c'est des points quand même qui sont intéressants à noter.
Autre chose, je pense qu'il faut souligner ce matin, c'est de voir qu'après un an, les alliés quand même demeurent solidaires auprès de l'Ukraine.
Ouais, ça dépend évidemment de ça. C'est des impacts positifs de cette guerre-là, dépendamment du point de vue. Mais du côté des alliés de l'Ukraine, ce qui est important, c'est d'abord la renaissance de l'OTAN. L'OTAN qui était critiquée par la France, par les États-Unis et tout ça au cours des dernières années, maintenant est redevenue une force importante. Deux pays importants qui étaient complètement neutres, la Suède et la Finlande, qui veulent se joindre et qui vont se joindre à l'OTAN. Une coalition internationale donc qui dure en faveur de l'Ukraine. Pour l'instant, c'est important. Il faut parler aussi dans les points positifs du rôle du président Zelensky. Il faut se rappeler un comédien, un homme qui n'avait pas d'expérience de gouvernement, qui se retrouve en quelques mois dans la pire des situations qu'on puisse imaginer. Ce bonhomme, ce personnage s'est transformé en une personnalité internationale face auquel on est unanime. C'est un personnage qui a vraiment pris en main le sort de son peuple, qui a renoncé à quitter et qui est là depuis le début dans des conditions extrêmement difficiles. Et puis l'autre point positif, c'est le moral des Ukrainiens. Ça, c'est important aussi. La presse, par exemple, titre ce matin un an de résistance, cette capacité des Ukrainiens de résister à une puissance militaire qui est 5 fois plus grande qu'elle en termes de nombre, en termes d'argent, etc., etc. Puis l'autre point positif, Paul, c'est l'aide étrangère. On parle de 160 milliards d'aide à l'Ukraine, militaire, humanitaire et tout ça depuis le début, dont 5 milliards du Canada et au-delà de 100 milliards des États-Unis. Ça, c'est important aussi. L'effort américain dans ça est extrêmement important.
Est-ce que ça veut dire, Jean-François, qu'on a encore une autre année de guerre devant nous? Est-ce qu'il y a moyen de trouver une solution ou si vraiment c'est une guerre qui s'étire?
Oui, c'est une grande question. On assiste à un monde de plus en plus divisé face à cette guerre-là. La Russie, tu as dit, la Russie est isolée, mais la Russie a quand même beaucoup d'appui, malgré ce qu'on pense, entre autres, de la part de l'Inde, qui a jamais dénoncé l'invasion, et qui, l'Inde, a augmenté son commerce avec la Russie de 400% pendant la première année de guerre. Donc, l'Inde qui continue, malgré les sanctions et tout ça, à avoir des relations extrêmement étroites avec la Russie. La Chine, on vient d'en parler. En fait, Paul, quand on mesure les choses, il y a 2/3 de la population de la planète qui vit dans les pays qui n'ont pas condamné l'invasion ou qui n'adoptent pas les sanctions contre la Russie. Donc, on voit que le monde est divisé. Il y a des gens qui disent que c'est une division entre l'Occident, hein, représenté par l'Europe, les États-Unis, le Japon et tout ça, et l'Occident en termes de richesse et tout ça, quand je parle du Japon, et le Sud, le Grand Sud. Hein. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'Afrique du Sud fait des manœuvres militaires navales très importantes. Avec qui? Avec la Russie et la Chine autour de son territoire. Le Brésil, une grande démocratie, avec Lula, mais le Brésil, pour l'instant, ne sanctionne pas du tout la Russie. Donc, est-ce que cette coalition dont on parle et qui a été un succès jusqu'à maintenant va finir par s'effriter? Qu'est-ce qui va se passer? On pensait à une médiation à un moment donné de la Turquie. Aujourd'hui, la Turquie, avec tout ce qui lui arrive, n'est plus là pour intervenir. Le grand problème de la Turquie, c'est les conséquences dramatiques du tremblement de terre. Maintenant, la Chine se pointe à l'horizon. Le président Zelensky dit même qu'il veut rencontrer la Chine. Est-ce que, effectivement, la Chine va pouvoir jouer un rôle? Mais pour l'instant, tout le monde dit, Paul, en terminant, qu'il faudrait un revirement sur le champ de bataille pour qu'il y ait une chance vraiment qu'il y ait une négociation de paix quelconque. Mais malheureusement, tant que chacun du côté russe ou du côté ukrainien aura la capacité de durer, ce conflit-là semble s'engager dans une année, en tout cas, où tout ça va durer.
Merci beaucoup, Jean-François. Bon week-end.
Merci.
Au revoir, Jean-François Lépine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
Maintenant, parlons de l'implantation du nouveau système informatique, la nouvelle application de la Société d'assurance automobile du Québec. Depuis lundi, on peut comprendre les périodes de maintenance, d'ajustement. mais vous êtes nombreux, nombreux à vous plaindre. D'abord, des difficultés d'accès, de transactions impossibles à compléter, de rendez-vous qu'on ne peut pas prendre, des gens qui se présentent dans les succursales qui se font virer de bord, puis des employés qui nous disent vivre dans le néant, de vivre avec peu d'informations. Dave Leclerc est vice-président donc aux stratégies de marketing et de sécurité routière à la Société d'assurance automobile du Québec. Monsieur Leclerc, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Bon, en un mot, là, on comprend qu'il y a des ajustements, là, mais on peut pas dire que c'est un gros succès cette semaine.
Ben écoutez, je le dirai en deux temps. Début de semaine difficile, particulièrement mardi. On s'est parlé, je pense, mardi matin. Tout roulait rondement mardi matin jusqu'à 10 heures, mais par la suite, bon, on a eu des problèmes techniques importants. Il y a eu des mises à jour qui ont été faites. Depuis mercredi, hier aussi, on a eu des bonnes journées, plus de transactions. Depuis lundi, là, pour vous donner un horizon à peu près de transactions, on est à 330 000 transactions effectuées, peu importe le canal, donc que ce soit dans les centres de services, les mandataires, les commerçants ou encore sur le web. Pour ce qui est de notre plateforme web, autrement dit, ça clique, c'est plus de 200 000 consultations qui ont été faites cette semaine. Donc, je vous dirais que la fin de la semaine se déroule un peu mieux. Mais évidemment, vous comprenez que les clients ont eu beaucoup de difficultés et on le comprend. On a travaillé très fort. Les gens ont travaillé 24 heures par jour pour tenter d'ajuster les choses côté informatique.
OK, mais je comprends, vous faites m'inonder de chiffres là, sur le nombre de transactions, mais je veux vérifier avec vous un certain nombre de détails. Allez. Est-ce qu'il y a eu des problèmes, par exemple, de paiement, c'est-à-dire des gens qui ont voulu faire des transactions puis ça n'a pas fonctionné?
Oui, on a eu des problèmes, entre autres, avec ce qu'on appelle les machines de paiement, entre autres, dans les centres de services. Il y a eu une mise à jour qui était faite dans la nuit de lundi à mardi, je me souviens bien. Et c'est mardi qu'on a constaté des problèmes de paiement parce que les communications avec la centrale étaient affectées en raison d'une mise à jour qui avait été faite dans la nuit.
Est-ce que c'est vrai que pour les commerçants, ce qu'on appelle le fameux transit, au lieu de durer 10 jours, on le donne pour 20 jours?
Bien, on essaie de donner deux transits, hein, si c'est possible. Parce que si, par exemple, puis je vais vous donner un exemple concret de problème qu'on est en train de résoudre. Certains commerçants ont de la difficulté à imprimer la plaque provisoire. Autrement dit, maintenant, on donne plus de plaques dans les commerçants. On imprime une plaque provisoire pour remplacer le transit. Certains commerçants ont eu des difficultés, on est en train de résoudre le problème. Oui, parfois, on va donner deux transits pour éviter aux clients de se faire intercepter par les policiers.
Est-ce que c'est vrai si j'appelle sur votre système téléphonique après un certain nombre de coups, de temps de mise en attente, là, vous allez me raccrocher au nez?
Ça peut encore arriver, puis on en est vraiment désolé. Je vais vous donner une idée de grandeur d'appels qu'on a eu. Lundi, 60 000 appels. Hier, on était à 30 000. Notre capacité est à 8 000 par jour. Donc, c'est certain que parfois, le système n'est pas capable de prendre l'affluence au téléphone. On essaie de gérer ça de façon dynamique pour permettre au maximum de gens d'avoir l'information téléphonique. Mais on sait qu'il y a plusieurs personnes qui tentent d'appeler plusieurs fois, ce qui embourbe les lignes. Et oui, ça pourrait arriver que les gens se fassent raccrocher au nez. On en est vraiment désolé.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait jusqu'à 2 heures d'attente à l'extérieur, en plein hiver, par temps froid, devant les succursales et qui se sont fait dire « retournez chez vous »
2 heures, ça serait surprenant, mais je peux pas dire, évidemment, si vous avez des témoignages, possiblement. Mais l'idée étant que nos employés et les mandataires font ce qu'on appelle un accueil dynamique. Je suis ce matin au bureau de Hamel à Québec et déjà des employés sont à l'extérieur pour accueillir les clients pour dire cette transaction-là, allez la faire en ligne, par exemple, ou votre institution financière pour éviter d'attendre. Donc, on essaie de répondre rapidement aux clients lorsqu'ils arrivent en point de service.
Est-ce que c'est vrai que si je prends un rendez-vous actuellement, ça me mène possiblement début avril, puis peut-être même du mois de mai?
Ça dépend probablement aussi du service et de la région dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça il y a évidemment, on a 43 centres de services, plusieurs mandataires, près d'une centaine. Donc, ça peut varier d'une région à l'autre. Oui, c'est possible que certains rendez-vous soient rendus en avril, mais on ajoute des rendez-vous. Là, ce que je vais vous dire, c'est important. Par contre, pour éviter d'embourber la ligne téléphonique, on conseille fortement nos clients d'aller voir sur le web. De toute façon, si vous essayez de magasiner un rendez-vous au téléphone, c'est la même grille de rendez-vous qui se trouve au téléphone pour nos employés que celle qui se trouve sur le site web.
OK. Si je résume, là, vous avez stoppé la plupart de vos activités pour implanter le nouveau système pendant 4 semaines.
Oui, exactement 14 jours ouvrables.
OK, mais j'espère qu'on a travaillé les fins de semaine pour l'implanter le plus rapidement possible, non?
Oui, vous comprenez que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour faire à peu près 15 000 étapes, M. Darcan.
Je comprends, mais on peut embaucher du personnel supplémentaire. Quand on fait une transition majeure puis qu'on offre un service de base aux citoyens, oui. J'espère qu'on ne fait pas du 9 à 5.
Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a plusieurs centres de services qui ont fermé aux alentours de 18h, 19h cette semaine. J'ai aussi des centres de services qui vont fermer un peu plus tard aujourd'hui. Des mandataires qui ont travaillé hier soir, qui travaillent samedi. On a un centre de service, par exemple, à Saguenay, qui a donné des rendez-vous à ses clients pour samedi. Donc, on essaie de faire le maximum. Il faut bien comprendre qu'on avait déjà ajouté des gens pour maximiser l'effort humain, justement, dans les centres de service. Mais pour nos transactions, vous comprendrez que quelqu'un qui est embauché, c'est à peu près 6 mois de formation. Donc, on avait déjà augmenté la charge.
Je comprends, monsieur Leclerc. C'est 6 mois de formation, mais ça fait des années que vous planifiez l'implantation du nouveau système, là.
Oui, avait ajouté des gens.
C'est pas une panne, c'est pas une crise. Moi, ce que j'aimerais savoir, là, vous m'avez parlé tantôt de la capacité du système téléphonique. Vous m'avez dit, c'est combien d'appels?
C'est 8000 appels qu'on est capable de prendre par jour, puis on en a reçu 60 000 lundi.
Avant l'implantation du système, cette capacité d'appel était de combien?
Oh, on était aux alentours de peut-être 5000, 3500. Ça dépendait des journées. Il y a des journées où on a moins de préposés au téléphone. Là, on roule à peu près entre 200 et 250 préposés au téléphone par jour.
OK, mais aviez-vous anticipé que ça pouvait dépasser 8000 appels par jour? Puis qu'est-ce que vous avez fait pour être capable de prendre plus que 8000 appels par jour?
Bien, on a augmenté notre force de frappe. Évidemment, au téléphone, comme je vous dis, généralement, on est à 150. On est rendu à 200, 250 parfois par jour. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de communication pour inciter les clients à faire leurs transactions en ligne, devancer la transaction, ne pas se présenter. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a des gens qui se sont déplacés encore en centre de service hier pour une photo pour leur carte d'assurance maladie, mais qui est due en mai. Alors, ce qu'on suggère aux gens, déplacez-vous pas aujourd'hui pour mai, venez un peu plus tard, 15 jours avant votre date d'échéance. Ça va aider. Ça qu'on y va aussi par communication pour supporter les équipes et les équipes supplémentaires qu'on a.
OK. Vous donnez une note de combien sur 10?
Sur 10 cette semaine, je vous dirais qu'en début de semaine, peut-être 4, 5. Mais je vous dirais que on est peut-être à 6,5. Mais certainement, je vais donner un 8 et un 9 à nos employés. Se démène vraiment pour répondre aux clients qui parfois sont pas toujours faciles. Là. Je comprends les clients qui vivent des moments difficiles, peut-être d'attente, etc. Mais nos employés ont trouvé la semaine aussi très difficile et ils font tout pour servir les clients le plus rapidement possible et en servir le plus possible.
Savez-vous ce qu'ils me disent, vos employés? Ils m'écrivent ça, là, puis pas un, plusieurs. Que depuis quelques années à la Société d'assurance automobile, on a multiplié les différents paliers de petits boss, qu'il y a une multiplication d'intermédiaires, de gens qui sont pas terrains dans les succursales et qui font justement que le système ou le service est pas à la hauteur. Moi, là, beaucoup de vos employés se sont sentis dans le néant et abandonnés cette semaine.
Je dois vous dire que je veux pas commenter les commentaires de nos propres employés. Évidemment, vous comprendrez. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le nombre d'employés a jamais été aussi élevé en service client à la société en 2023 qu'il l'a été auparavant. Pour le support de nos employés, dans chaque centre de service, on a ce qu'on appelle des super utilisateurs pour supporter nos employés. Et par la suite, il y a un deuxième niveau de soutien, évidemment, téléphonique pour aider les employés à réaliser les transactions. Chaque employé a été formé, mais évidemment, il y a une courbe d'apprentissage et c'est tout à fait normal. Et je comprends que certains employés soient découragés cette semaine, mais on les supporte et on les aide justement à franchir cette étape-là lorsque ça va être plus fluide, évidemment. On le souhaite rapidement.
OK. Merci, M. Leclerc. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir. Dave Leclerc est VP à la Société d'assurance automobile du Québec.
Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Vous rappelez l'histoire de cette clinique orthopédique qui attendait depuis des mois pour ouvrir à Saint-Jérôme. On sait que la liste d'attente dans les Laurentides est très élevée. Donc, des médecins du public, là, rappel, des médecins du public qui se sont dit, on va ouvrir une clinique, puis on va prendre des patients du public pour les opérer parce qu'on n'est pas capable de le faire dans le système régulier. Et il y avait du gossage autour de l'octroi d'un permis. Finalement, on a appris hier que le ministère de la Santé, le bureau du ministre, a décidé de permettre l'octroi de ce permis. Et donc, on pourra finalement, on imagine, aller de l'avant. Le docteur Patrice MacKinnon est avec nous, un des médecins chirurgiens orthopédiques. Docteur MacKinnon, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Bon, finalement, là, vous l'avez le permis, ou vous allez l'avoir, là.
On l'a reçu hier, effectivement.
OK. Le permis vous permet de faire quoi?
En fait, le permis nous donne l'autorisation d'opérer des patients dans le CMS, dans le centre médical spécialisé. Par contre, si on veut opérer des patients du public, il faut une entente avec le CIS des Laurentides. T'sais, les patients sont le CIS des Laurentides est responsable des patients des Laurentides, puis c'est eux autres qui vont faire l'entente avec nous pour qu'on puisse les opérer. Pour avoir cette entente-là, le ministère doit entériner l'entente puis dire d'accord, faites l'entente avec le CMS, puis on va attacher un budget qui va avec parce que c'est un budget de développement. Donc, ces deux étapes-là, ça nous prenait le permis pour passer aux autres étapes, mais ces deux étapes-là sont encore nécessaires avant de pouvoir recommencer les travaux qui sont arrêtés.
OK. Là, je comprends. Là, peut-être que c'est moi qui l'interprète mal, là, puis vous me le direz. Là. Vous avez un permis pour opérer les patients. Ouais. OK. Vous n'avez pas encore toutes les ententes pour opérer les patients du public?
Non, c'est ça exactement. C'est comme si ça prenait, puis ça c'est toutes des affaires du ministère, c'est comme si ça prenait un permis pour pouvoir, si on n'a pas de permis, le CIS ne peut pas faire une entente avec nous. Donc ça prenait un permis en premier, ça a été un petit peu long, on l'a eu, tu sais, le ministre Dubé a respecté sa promesse la semaine passée, il a dit on l'aurait dans une semaine, on l'a eu, c'est bon. Mais là, c'est pas fini. Il faut qu'on aille l'entente. Puis là, l'entente, le 6 de Laurentides, on peut pas signer l'entente tant qu'on n'a pas le budget qui va avec. Parce que ça, c'est un budget de développement.
OK. Mais, Dr. McKenna, pourriez-vous théoriquement, je dis bien théoriquement, prendre le permis, ouvrir une clinique 100% privée puis faire payer le monde?
On pourrait peut-être, là, mais...
Je sais que c'est pas ça que vous voulez faire, là.
Non, mais... c'est ça. On a envoyé notre entente avec l'idée qu'on ferait... la demande de permis est faite avec l'idée qu'on ferait l'entente avec le CIS. Puis dans le fond, le CIS, au début, en 2021, septembre 2021, demandait de faire une entente avec nous autres, avec le CMS. Fait que tout ça devrait être tout ensemble, effectivement. Tu sais, ça devrait aller de soi. Disons, on a le permis, puis à mon avis, dans trois jours, on devrait avoir le OK du ministère pour dire c'est correct, signer l'entente, puis on va mettre le budget qui va avec. Là. Tu sais, parce que un va pas sans l'autre. Là, c'est comme si on a le véhicule, mais on n'a pas le moteur, puis on n'a pas de roue. Là.
OK, deux, trois questions. Puis là, je fais pas exprès, mais vous savez, moi, le mammouth de la santé, là, je trouve des fois que c'est assez complexe. Là, est-ce que... Bon, le CIS savait que vous étiez en demande, que vous attendiez le permis. Est-ce que vous avez des discussions avec eux, justement, pour faire en sorte d'accélérer, de dire, bon, une fois que le permis va nous être donné, voilà l'entente, on a déjà fait les demandes au ministère. Est-ce que la bureaucratie a bougé?
Oui, oui, effectivement. Bon. La directrice générale de l'hôpital, là, Mme Landry, elle a mandaté le directeur général adjoint, là, Bruno Caillé, qui est très disponible, puis qui est un gars logique et intelligent, puis tu sais, il fait les affaires, il essaie de faire bouger le plus qu'il peut, puis les choses, puis il a déjà envoyé l'entente au ministère, le ministère-là, l'entente. Donc, on est comme prêts, ils sont prêts, tu sais. Mais ça prend pareil, le ministère, tu sais, il pourrait pas signer un papier en disant qu'on fait un développement, mais il y a personne qui va budgéter ce développement-là, parce qu'aussi, si on manque d'argent, tu sais, vous savez, on a moins d'argent pour la population que partout au Québec. D'ailleurs, notre gros projet qui se voulait en 2028, le gros projet de 450 millions qui a été décidé il y a plusieurs années, et en 2028, 450 millions, il n'a pas changé le 450 millions. Donc, c'est le projet qui va changer. Il manque d'argent. Fait que là, eux autres, ils peuvent pas signer tant qu'ils n'ont pas un budget d'associé à ça.
Est-ce que vous avez une date? Est-ce qu'on vous a dit on devrait avoir le budget à partir de telle date, ce qui nous permettrait de relancer les travaux?
Ben ça, je l'ai pas encore. Il y a quelqu'un, j'entends qu'il devrait être capable de me le dire bientôt, mais ça, on le sait pas, puis c'est inquiétant un peu pour nous, parce que la rapidité, je sais plus c'est quoi, là, tu sais, c'est relatif, là, tu sais, moi, la rapidité, c'est 3-4 jours, 6 jours. Pour les patients qui sont sur une liste d'attente, eux autres, ça serait lâcher tout ce que vous faites en ce moment, là, puis aller signer l'entente, s'il vous plaît, hein, tu sais. Céline Dion, tu me dirais take a kayak, hein, tu sais, c'est, mais au ministère, je sais pas comment ça va prendre de temps. C'est-tu 3 semaines ou 3 mois, j'en ai aucune idée. Il faudrait leur demander.
Je comprends que le monde est de bonne foi, là, mais entre vous et moi, là, je vous donne un permis. Peux-tu m'assurer que dans des délais les plus courts possibles, parce que j'ai des gens qui attendent, puis ce sont les patients, disons, oubliés souvent sur les listes, là, les patients en orthopédie. Peux-tu m'assurer que le cash va suivre le permis, tu sais, me semble?
Exactement. Okay. C'est la question qu'il faudrait leur poser à eux.
Bon, ça, vous savez, faut trouver le bon intervenant. C'est pas que la mince affaire. L'autre chose, si vous commencez à construire, là, vous devriez être capable d'opérer les premiers patients quand?
On vise encore début septembre si on peut commencer les travaux, disons, à fin février. Fin février, c'est bientôt, là. Parce que des commandes à passer qu'on n'est pas capable de passer si on n'a pas l'entente, là. Donc, si on est capable de tout passer ça avant la fin février, on vise encore septembre.
Merci, docteur McKinnon. Bonne journée.
Au revoir. Merci, bonne journée à vous, papa.
Docteur Patrice McKinnon, chirurgien orthopédique. Marquez qu'il y a peut-être la bonne foi, là, que peut-être que les parties prenantes sur le terrain veulent accélérer. Mais là, tu donnes le permis, mais tu ne donnes pas l'argent pour aller avec le permis. C'est comme si voici des clés du char, mais il n'y a pas de char. C'est un peu... Bon, au moins... Et quand je vous dis là que ce que le politique fait, ça c'est le ministre là, qui décide de donner le permis, là, c'est une chose. Puis là, il a fallu qu'il brasse le mammouth. Puis juste faire une courte parenthèse. Ce matin, on apprend au fédéral, M. Trudeau a jamais autant dépensé pour des firmes de consultants. M. Trudeau a jamais autant embauché de fonctionnaires. Et le service n'a jamais été aussi mauvais à Immigration Canada, puis là, je vous passe le bureau des passeports. Fait que, c'est quoi la morale de l'histoire? C'est que t'embauches, puis t'as des firmes de consultants. Souvent, me disent des gens, c'est pour contourner la bureaucratie parce que les firmes vont faire une job que les fonctionnaires voudront pas faire, puis parce que ça bloque dans la machine. Puis malgré ça, t'embauches du monde. Donc, t'embauches du monde partout, ça te coûte plus cher, puis t'es pas plus efficace. Ça, c'est du côté fédéral. On verra pour la suite.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, on a une belle nouvelle ce matin, ou un exemple de courage, de solidarité, de bienveillance dans ces moments où c'est parfois, disons, des valeurs mises de côté. Je vous raconte l'histoire d'Alexis Carboni, qui est un jeune homme de 19 ans qui a joué au hockey et qui, malheureusement, a reçu un diagnostic de cancer des os. Il a joué pour l'équipe de hockey du Collège Saint-Sacrement à Terrebonne. Et quand la nouvelle a été connue, les joueurs, les entraîneurs ont décidé de faire preuve de solidarité puis d'organiser un événement. Ça s'appelle le Match en blanc. Maxime Charlebois est avec nous. C'est un prof d'éducation physique et entraîneur de hockey au Collège Saint-Sacrement. Monsieur Charlebois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan. Merci de nous recevoir ce matin.
Ben, c'est à moi de vous remercier d'être là. Parlez-moi un peu d'Alexis. Comment vous avez su ça? Comment les autres joueurs de l'équipe ont su ça? Il a joué donc pour Saint-Sacrement pendant qu'il était au collège.
Oui, il a joué quelques années avec nous au collège. Donc, quand on a appris la nouvelle au mois de décembre du diagnostic de cancer, ben c'est sûr que ça nous a tous affectés. On s'est dit, les entraîneurs de hockey puis la communauté de collège, qu'il fallait faire quelque chose pour soutenir cet ancien élève-là. C'est important pour nous, le sentiment d'appartenance puis de perpétuer ça. Donc, on est arrivé avec quelques idées. Là, on a fait une vidéo en premier lieu pour montrer notre soutien avec des anciens coéquipiers, des membres du personnel, des joueurs actuels. Ensuite de ça, ben nos 8 équipes, on porte un collant avec le numéro 8, qui était le numéro Alexis à l'époque, sur leur casque en guise de soutien. Puis, ben tu sais, de fil en aiguille, moi, je sentais que j'avais besoin de faire quelque chose de plus pour Alexis, pour le soutenir. Puis, c'est une banale conversation de corridor avec le directeur des sports ici au collège, là, qui a fait en sorte qu'il m'a lancé l'idée de dire hey, on devrait organiser un match en blanc. Donc c'est parti de là, c'est parti de rien. On a dit go, on fonce, on essaie de faire quelque chose justement pour donner un peu d'énergie, donner une dose d'énergie. Donc on a commencé à organiser ça sans attente et ça a pris des proportions quand même assez incroyables. La preuve, on se parle ce matin. Donc on espère vraiment que Alexis va y assister ce soir puis que ça va lui donner l'énergie nécessaire là, pour continuer ses traitements puis vaincre la maladie.
Mais quand vous me dites que ça a pris des proportions que vous n'aviez pas anticipées, là, concrètement, ça veut dire quoi? Comment ça va se passer ce soir?
Ben en fait, l'aréna où on joue, c'est 800 places et c'est complet. On a vendu tous les T-shirts. On avait commencé avec 50 T-shirts, c'était notre objectif. On a fait des T-shirts spécifiquement pour l'événement. On s'est dit, si on en vend 50, c'est parfait. On remettra les petits surplus au GoFundMe d'Alexis. Puis, au moment où on se parle, ben, en fait, on a vendu tous les T-shirts qu'on a fait produire. On en a vendu 625. Puis, si on en avait plus, ben je pense que j'en aurais vendu 300 au cours des deux dernières journées. Donc, c'est vraiment ça fait boule de neige. La communauté hockey, les autres équipes embarquent dans le projet. Nos parents des joueurs actuels, les anciens coéquipiers d'Alexis vont tous être là ce soir pour le soutenir. Donc, c'est vraiment une grande famille, un esprit là, de solidarité incroyable qu'on va vivre ce soir. Puis, on en est très fiers, vraiment, là, parce que c'est notre objectif ici à l'école, ben, c'est de développer des étudiants athlètes, puis leur donner les outils pour réussir, pas seulement sur la glace, mais tu sais, dans la vie. Puis aujourd'hui, on voit que le message porte, puis que tout le monde est solidaire derrière Alexis là-dedans.
Est-ce que je comprends que le match de ce soir, c'est contre les Faucons de l'Académie Sainte-Thérèse, puis qu'il y a une papille de rivalité entre les deux équipes?
Ben, en fait, oui, effectivement, c'est contre l'Académie Sainte-Thérèse. C'est une belle rivalité, je vous dirais. C'est une ligue qui a quand même plusieurs bonnes équipes. Donc, c'est deux bonnes équipes qui vont s'affronter ce soir. Puis, c'est un adversaire qu'on est content de partager l'événement. Donc, ils ont embarqué dès le début. Puis, ils nous soutiennent là-dedans. Les parents de l'Académie Sainte-Thérèse ont également acheté des T-shirts pour le match ce soir. Fait que c'est vraiment...
C'est fun.
Ouais, exactement. C'est une rivalité, mais en même temps, il y a une solidarité là, qui s'est installée. Là.
Et je pense qu'Alexis est étudiant en technique policière, puis ses parents sont policiers.
Oui, exactement. Donc, Alexis est à sa deuxième année en technique policière. Donc là, évidemment, il a mis ses études sur pause pour l'instant pour faire ses traitements. Donc, puis depuis qu'il est au collège, il nous parlait de vouloir être policier et poursuivre dans cette carrière-là. Donc, on est convaincu, on est conscient qu'il va réussir à passer à travers puis pouvoir vivre son rêve de devenir policier. Là.
Bon, on lui souhaite, puis bravo pour ce que vous faites, M. Charlebois, avec toute votre équipe.
Ben, je vous remercie. Merci de m'avoir permis le temps de raconter notre belle histoire.
Absolument. Bonne chance à vous. Maxime Charlebois est enseignant d'éducation physique d'abord et entraîneur de hockey au Collège Saint-Sacrement. Et quand arrive ce genre de nouvelles, il faut prendre le temps de le souligner. Puis je pense que ça a plusieurs effets. C'est bénéfique pour Alexis, mais c'est bénéfique aussi pour les gens qui peuvent comme ça contribuer.
C'est 23.